Radio Campus.
Ça vous fera pas de mal un peu de chasteté.
Embrace your new found love.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché à Zurich, au palais de la
Sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Merci de nous faire l'amitié de nous écouter sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Bienvenue dans une nouvelle édition, une nouvelle session d'Abattoir Rompu, magazine d'info, tous les mardis à 19h, avec des formidables chroniqueurs et de talents. Steven est de retour. Bonsoir Steven.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Les vacances ont été bonnes?
Excellentes, vraiment reposantes de ouf. Mais là, on revient pour faire un peu plus de conneries que d'habitude.
Mais tu n'as pas fait que te reposer, Steven. Tu as rencontré à Nantes des membres d'un collectif.
Ouais, exactement.
La coordination opposée à l'enfermement et à la répression des personnes étrangères. Ça s'appelle Colère, Colère 44. C'est un collectif qui est fondé sur le même modèle que celui d'Orléans, dont tu nous avais parlé dans une émission
précédente.
Eh bien, on va écouter tous ces gens dans l'émission. Et tu as aussi fait des interviews, je crois, sur...
Oui, parce que je crois qu'on a eu un nouveau Premier ministre, il n'y a pas si longtemps que ça, un vieux croulant, mais on en a un.
Ouais, j'ai vu sur ton papier, je vais en parler, il y a des mots, il ne faut pas utiliser pour des vieux.
Il faut être respectueux.
Mais on respecte
le respect dû aux anciens.
Oui, totalement, c'est ça.
Moi, j'ai été...
Et le respect des élections aussi, pardon.
Moi, j'ai été élevé comme ça, moi, on est un vieux, on le respecte. Même s'il est croulant. On écoutera ça, c'était lors de la manifestation il y a 10 jours je crois maintenant.
C'est ça, le 7 septembre.
Contre la situation politique et notamment la nomination donc, de Michel Barnier à Matignon.
Le respect.
Oui, pardon. Victor et Thomas, salut à vous.
Oui, bonjour Hassan.
Salut Hassan.
Bonsoir à toutes et à tous.
Thomas, nous allons démarrer cette émission avec l'émission de ce soir avec toi, avec une interview que tu as réalisée plus exactement, celle de Frédéric Robb, directeur de l'Astrolabe.
Oui, c'est ça.
C'était au cours du direct sur le festival Hop Hop Hop. Radio Campus organisé.
Ouais, c'est ça. 8 heures de direct, 4 heures le vendredi et 4 heures samedi dernier. Pour accueillir l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais en tout cas une grosse partie des artistes qui étaient programmés sur ce beau festival fêtait sa 9e édition.
Bah, absolument. Il y a eu ça, il y a eu un showcase, il y a eu. Bon, on parlera de ça. Et puis justement, vous y étiez aussi, Victor, pour aider l'équipe. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Frédéric Robb, en tout cas dans l'interview, fait un bilan des 9 éditions de ce festival et parle aussi des contraintes liées à l'organisation d'un tel événement. On écoutera ça. Nous parlons également ce soir des week-ends d'Ardar, opération pilotée par le Conseil régional Centre-Val de Loire. 3 week-ends pour permettre aux jeunes de la région de participer gratuitement à des expériences artistiques près de chez eux dans des structures culturelles. La conférence de presse annonçant l'événement avait lieu hier. Nous entendrons François Bonneau, président de la région, Delphine Benassi, vice-présidente à la région déléguée à la culture et à la coopération internationale, et quelques structures qui ouvrent leurs portes aux jeunes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et tous.
Avec Hassan Kerim.
C'est moi. Pardon. je me laisse piéger, en tout cas, par les jingles. Et donc, cette interview de Frédéric Thomas.
Oui.
Ça se passait, rappelle-nous, contextualise le truc, c'était vendredi, je crois.
Ouais, c'était samedi. Oui, c'était vendredi, oui, tout à fait. En fait, on était sur deux directs, comme on expliquait, un direct de 4 heures le vendredi 13 et un autre le samedi 14, c'était de 15h à 19h. On était en direct du 109, le café-bar situé au sein du 108 rue de Bourgogne, pour celles et ceux qui connaissent ce fameux tiers-lieu.
Le 109 du 108.
Ouais, c'est ça, le 109 du 108.
C'est sérieux, ça, les gens.
Qu'est-ce qu'il y a pensé à ça? Ça, je n'ai pas fait d'enquête dessus. Mais peut-être qu'on en fera une pour une prochaine émission.
Pourquoi ça s'appelle le 109,
ouais. Bah, ça va. Oui, on recevait Frédéric Robe parce que, bah, effectivement, en tant que directeur de l'Astrolabe qui pilote ce festival Hop, c'est l'association Antirouille qui gère l'Astrolabe et qui organise ce festival Hop, bah, c'était évidemment pertinent de pouvoir l'avoir sur notre plateau afin de parler de la programmation de cette 9e édition et évidemment des suites peut-être à donner pour la 10e qui arrivera quand même l'année prochaine. C'est quand même
normalement fatalement
une 10e est symbolique quand même, donc c'est toujours intéressant de l'évoquer. On avait démarré cet entretien tout simplement sur l'ambiance en elle-même du festival et peu à peu on a dérivé un petit peu aussi sur les conditions d'organisation et cette 9e édition très particulière puisque notamment le jardin de l'évêché est actuellement en travaux, donc ce qui a obligé les organisateurs déplacer entre guillemets une de leurs scènes pour intégrer le Campo Santo.
Il y avait deux scènes.
On était sur deux scènes cette fois, une petite et une grande scène. Il y a des interrogations aussi sur le jardin de l'évêché par rapport à l'année prochaine. Scène magnifique, mais tout fermée. Proche de la cathédrale,
mais
travaux,
voilà, oui.
Fermée effectivement. Et il y a aussi des problématiques sous-jacentes, parfois pas directement dites, mais on sait très bien que des festivals comme Hop sont de nature parfois à gêner le voisinage. Il y a ce genre de problématiques qui peuvent être questionnées. Est-ce que c'est pertinent?
Des vieilles personnes comme Michel Barnier.
Je ne prendrai pas position, je vous laisse le dire par vous-même. En tout cas, c'était intéressant de l'avoir en une interview pour évoquer tous ces sujets.
Vous retrouvez cette interview également sur le site YouTube de Radio Campus Orléans. Tout ça a été filmé. Et puis, il y aura des podcasts qu'on écoutera sur ce site de la radio. Mais pour l'instant, dans Bâton Rompu ce soir, Frédéric Robe, directeur de l'Astrolabe.
C'est un festival qui a changé entre la première édition, certains d'entre vous y étaient, qui était une sorte de pari un peu cosmique, de dire on va ouvrir plein de clubs dans la ville. Donc on avait 5 clubs, le 108 en faisait partie, le centre chorégraphique, le théâtre, l'institut et puis l'évêché, où pour le coup on était quasiment sur 40 groupes programmés sur 2 jours. Quoi. Ouais. Donc c'est clair que ça mettait une effervescence dans la ville qui était assez dingue. Et on voyait des gens partir de partout pour aller dans tel ou tel club. Et on est arrivé presque à un niveau en 2019 où ça devenait extrêmement compliqué pour le public de rentrer dans ces petits clubs. Le 108, je crois que c'était 180 places. Le centre chorégraphique, à peu près l'équivalent, etc. Donc c'est vrai qu'on se retrouvait avec des files d'attente pour rentrer qui étaient assez complexes. Et puis, effectivement, le Covid est arrivé par là-dessus et on a dû ouvrir. On pouvait plus faire des clubs indoor. Donc on a fait les clubs outdoor et c'est là où est arrivé le Campo Santo, le jardin de l'évêché qui était déjà là, etc. Et puis où le public est monté aussi un petit peu en puissance. Donc l'objectif, ça a été de voir comment on pouvait conserver, je dirais, un niveau artistique quasi équivalent. On est légèrement en dessous des 42 concerts. Donc ce qu'on se dit, c'est que parfois ça aurait, tu vois, cette année on n'a pas le jardin de l'évêché, on a retransformé le Campo Santo pour avoir deux scènes. On se dit, voilà, on va arriver aux 10 ans, on aimerait faire pour les 10 ans une édition un peu qui mélange tout ça, tu vois, comment on peut peut-être réintégrer certains anciens clubs et puis revenir à des soirées phénoménales qu'il y ait pu avoir. Enfin, moi, je me souviens de trucs au campus, au 108, là, qui étaient complètement dingues, quoi, où t'avais, enfin, c'était une effervescence incroyable. On n'avait pas l'impression d'être à Orléans. T'étais dans un club mythique de Berlinois ou je ne sais où. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire que ça a évolué forcément. Il y a aussi des normes qui ont changé où il y a des choses qui sont effectivement beaucoup plus complexes. Il y a certains aspects, notamment techniques, qui sont un petit peu plus poussés maintenant, notamment en termes d'accroche, de sécurité, de choses comme ça. Donc, on essaye de naviguer là-dedans et puis de tenter de faire encore de Hop 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 un événement plutôt sympathique et de lâcher prise, on va dire, par rapport à ce qu'on peut proposer musicalement. Ce qui ne change pas, c'est l'intention musicale. On est toujours sur l'émergence de la découverte, des newcomers, etc. etc.
Ouais. Et on va l'évoquer, hein, justement, cette programmation musicale. Mais avant, justement, pour rester sur cette année un petit peu spéciale, on le disait, le Jardin de l'Évêché qui n'accueille pas l'événement cette année puisqu'il est fermé pour cause de travaux. Donc à la place, les deux scènes qui sont installées au Campo Santo. Avec le recul, comment est-ce qu'on analyse un petit peu ce changement pour cette année ? Est-ce que c'est un bien pour un, est-ce que c'est un mal pour un bien, pardon ? Sachant que notamment Mathieu Dufault, qui est le programmateur de l'Astrolabe, lorsqu'on le questionnait, disait notamment que l'intérêt aussi de Hop Hop Hop, c'était de découvrir aussi des lieux patrimoniaux et de s'installer en fin de compte dans des lieux patrimoniaux. Et c'est vrai que le Campo Santo, pour le coup, est vraiment un endroit assez emblématique d'Orléans. Est-ce que finalement installer deux scène sur place, on s'y retrouve par rapport au fait qu'on puisse pas se produire à l'évêché, ou est-ce qu'il y a quand même ce pincement au cœur ?
Disons qu'on raconte pas la même histoire, c'est-à-dire que là, au Campo Santo, on va être dans une sorte de tunnel sonore de 17h30, enfin 18h15 exactement, date du premier, heure c'est du ça. Premier concert avec Mathieu Malon, jusqu'à effectivement 1h du matin, fin de la Lalar, tu vois. Et là, tu vas être dans un tunnel sonore avec effectivement deux scènes qui vont être en ping-pong, quoi. Ce qui était intéressant avec cette idée d'une scène alternative au Jardin de l'Évêché, c'est comme tu le disais, on proposait pour le coup un jardin extraordinaire avec un décorum extra, avec la possibilité pour les gens justement de se faire aussi des temps de pause, parce que ça alternait entre des groupes et des DJ, etc. Alors il y avait aussi ça, tu vois, il y avait presque une vingtaine de DJ qui étaient programmés sur la totalité du festival, ce qu'on n'a plus maintenant, tu vois. Donc c'est ça que je pense qu'il va un petit peu manquer, c'est à la fois cette idée de parcours dans la ville, c'est-à-dire comment on invite aussi les gens à se promener dans la ville et à aller d'une scène à l'autre, d'un endroit à l'autre, ou de se dire tiens, je vais me faire une pause à tel endroit et puis manger mon cheesecake ou je ne sais quoi, etc. Et puis repartir pleine balle après au théâtre ou à l'institut ou dans une des autres salles, quoi. Là, on va être un petit peu plus effectivement contraint avec ces deux salles sur certes un lieu patrimonial, mais un lieu connu et reconnu, donc on a essayé qui est souvent utilisé pour des événements culturels. Donc on a essayé, vous le verrez, de le transformer au maximum et puis de jouer justement avec ces deux scènes pour lui donner vraiment un aspect sympathique, puis ça n'empêche pas que tu as toujours cette cathédrale qui est plantée là et qui est quand même assez majestueuse au pied du Campo Santo, quoi. Donc voilà, on tente quelque chose. On espère pouvoir revenir au Jardin de l'Évêché, quand même. C'est des discussions qu'il va falloir avoir avec...
C'est pas encore acté pour l'année prochaine ?
C'est pas encore acté, ouais, c'est pas encore acté. C'est-à-dire que je pense que...
Qu'est-ce qui freine ?
Ce qui freine, c'est que t'as une ville qui investit de l'argent dans un jardin qu'elle remet, aux normes, peut-être, de ce qu'il était au début du siècle dernier, tu vois. Donc... c'est des moyens qui sont engagés là-dessus, et peut-être qu'effectivement se dire tiens, on va mettre 1500 festivaliers qui vont piétiner l'herbe, qui vont boire des coups, je ne sais quoi, tu vois, peut-être que... Mais je pense qu'il y a des alternatives à trouver, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de revenir à ce qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire qu'on peut... on n'est pas obligé de monter des grandes scènes, on peut monter des scènes intermédiaires, on peut aussi dire qu'on limite l'accès, au lieu d'être à 1800 personnes, on peut être à 900 ou 1000 personnes. Enfin, il y a des tas d'alternatives qui peuvent être proposées pour justement rendre le projet de revenir sur ce jardin soutenable et acceptable pour la ville et puis pour la vie aussi de la ville, quoi.
Ouais. Ah oui, vous disiez, enfin tu disais il y a quelques mois que, je cite, hein, les élus ne mesurent pas, enfin que tu avais peur en tout cas que les élus ne mesurent pas suffisamment l'impact d'un tel événement reconnu, je cite aussi, pour la qualité de sa programmation. Cette crainte, est-ce qu'elle est toujours présente aujourd'hui alors que l'événement attire aujourd'hui plus de 3000 spectateurs et que il est quand même bien implanté et qu'il arrive à l'aube de sa 10e édition?
Bah, tu sais, c'est les élus, c'est pas que les élus d'ailleurs, je pense qu'il y a énormément de gens, enfin de politiques, mais aussi de médias, etc., qui mesurent pas justement l'importance d'événements comme celui-là. C'est-à-dire, toi hier, je sais pas si vous étiez là au moment où, de la prise de parole, où j'expliquais pour le coup que tout le monde découvrait que monter des stades au milieu d'une ville, créer des événements in situ dans la ville au pied de patrimoines incroyables, bah, ça crée tout d'un coup une sorte de joie absolument dingue, etc., etc. Mais le monde culturel fait ça depuis des années, que tu ailles dans certains festivals en centre-ville ou que tu ailles dans des festivals de théâtre de rue comme à Chalon, à Aurillac, etc. Je veux dire, le patrimoine utilisé, c'est des événements qui ne créent, qui ne fabriquent que de la joie, tu vois. Donc là, tout d'un coup, effectivement, les grands médias ne s'intéressent qu'au mainstream, qu'à l'entertainment, qu'aux grosses machines bling bling, etc. Et on découvre qu'effectivement, on peut, que ça crée de la joie et du bien-être et que les gens sont heureux, etc. Et une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Et alors qu'il y a d'autres événements qui existent, comme Pop-Up, qui créent de la joie, qui fabriquent du bien-être. Enfin, nous, tu vois, ce qui nous fait plaisir au Pop-Up, c'est quand t'as des gens qui nous arrêtent dans la rue en disant « Ah, j'ai vu un truc de dingue !» et qui nous parlent du groupe qu'ils ont vu et qui nous remercient d'avoir programmé ce groupe, tu vois. Donc je pense effectivement, c'est-à-dire que c'est pas, on ne mesure pas, je parle de Pop-Up, mais je parle au plus de plein de micro-événements qui fabrique de la joie comme ça, qui fabrique du bien-être et qui fabrique le fait qu'on peut avoir une existence joyeuse, paisible, bienveillante et chouette, quoi, tu vois, tout simplement, quoi, tu vois. Tout à
fait. C'est un peu difficile de faire un peu de bruit quand même au centre-ville sans dire qu'on fait le tapage nocturne absolument dingue, mais de se dire simplement un événement qui a lieu au centre-ville pendant deux jours, c'est difficile à faire entendre parfois.
Ah, oui, enfin, c'est difficile à entendre pour ceux qui ils sont gênés surtout, mais déjà c'est pas du bruit, c'est de la musique, tu vois. Donc à partir de là, tu veux, effectivement, chacun va voir midi à sa porte. Effectivement, moi, je peux comprendre que des gens ça puisse les déranger, etc. Mais bon, tu vois, c'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire au Pop-Up, c'est 16 heures de musique par an, quoi. Pop-Up, tu vois, c'est que dalle.
Une goutte d'eau, hein.
Je pense que c'est supportable, tu vois. Et encore une fois, je pense que c'est là où il faut avoir un petit peu de pédagogie aussi avec les habitants, des habitants qui ont décidé d'être en centre-ville et que habiter en centre-ville d'une ville. Moi, j'habitais quand j'étais gamin au centre-ville d'une ville, tu vois. Bah oui, il y avait du bruit,
dynamisme,
bah oui, il y avait
aussi,
de la vie, bah oui, il y avait des choses comme ça. Mais c'est ce qui m'a forgé également, tu vois. C'est là que j'ai appris effectivement à vivre une ville en mode vivant, en mode dynamique, en mode où c'était facile d'aller d'un point A à un point B parce que à pied tu pouvais tout faire, etc. Bah voilà, c'est ça, un centre-ville, ça doit vivre et ça doit accepter effectivement qu'il y a des événements qui s'y déroulent, quoi.
À l'instant, Frédéric Robb, directeur de l'Astrolab. Oui, les contraintes sont là, hein, pour la 10e édition. On va voir, on touche du bois. Mais il faudrait que tous les lieux soient investis, les lieux qu'on connaissait, pour faire une belle fête l'année prochaine. Victor et Steven, vous y étiez. Vous avez travaillé sur le stand de Radio Campus et des radios.
Oui,
vous avez pu voir des concerts ou pas?
Oui. Bah, en fait, après le taf, mais du coup, oui, on était là déjà dès le jeudi après-midi pour pouvoir monter le plateau radio et la scène dans le garage du 108. Et après, en fait, on est resté là jusque 19h à peu près, 19-20h la plupart du temps. La journée, du coup, à la fois pour aider sur les plateaux radio, pour faire de la traduction, pour faire de l'image.
Et donc pas trop de concerts, du coup.
Et bah, du coup, les concerts après 19h.
Après 19h, ouais,
encore.
Et tu as vu des trucs qui te plaisaient ou pas?
Oui, moi, ce qui est gros coup de cœur de cette année, c'était Caboché.
Oui.
J'ai vraiment kiffé.
Victor, il m'a dit vendredi, c'était vendredi, hein. Il m'a dit, ouais, il faut qu'on aille voir Caboché, c'était à 23h. Qui va voir Caboché?
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le concert était super. Moi, j'ai vu sur un autre festival, ouais, c'est vrai qu'il est démentiel sur scène. Ce jeune homme, ce Kenyan qui fait de l'électro. Oui.
Non. Ah, non, mais non. Oui, après... si tu parles de nos coups de cœur, on ouais. peut peut-être les donner aussi, voilà. hein, Steven et moi. Hein. Vas-y.
Ouais, non, non, je voulais pas parler des coups de cœur. Moi, je voulais... moi, je suis un éternel
insatisfait. Ouais.
Insatisfait. Non, moi, ce que j'ai trouvé dommage, pour le coup, de tout ce qu'on a fait au 108, c'est qu'on a eu qu'un seul showcase. En fait, c'est ça qui,
ah, oui.
que j'ai
oui,
trouvé
oui.
dommage. D'accord. Parce que les artistes n'ont pas voulu venir. Je ne sais pas pourquoi, mais
Je crois pas. Mais enfin, bon, je pense que c'était comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'était pas possible d'en faire venir.
Mais jouer les artistes, oui, mais les années précédentes, on en avait eu. Mmh. C'est ça, en fait. C'est ça qui a été, ça qui était dommage, un peu frustrant, parce que ça aurait été bien d'avoir des interviews et des showcases.
Et puis en plus, c'est vrai qu'on était un petit peu isolé par rapport à l'axe du Pont-Loup, Campo Santo. Le 108, c'est pas très loin. Hein. Enfin voilà, c'est à une quelques centaines de mètres. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas eu de banderoles de la part de la mairie pour mettre des banderoles au pop-up ou des trucs comme ça, etc. Pour dire qu'il se passait des trucs. On était très entre nous, ce qui est pas forcément désagréable non plus, hein, mais c'est vrai que du coup on n'a pas accueilli énormément de public sur les interviews et sur les showcases, et c'était un peu dommage, quoi.
Eh bien, un peu de musique et puis on revient à toi, Steven. On va parler de Steven. Enfin, Steven.
On va parler de Steven.
Oui, on va parler de Steven. Non, hein, non,
vous savez,
on a des bons, on va vous sortir.
Non, on va se calmer quand même.
Steven, le mec qui insulte tes vieux. Dans un public. La catégorie de la pop folk et du rock anatolien, style de musique qui a connu un grand succès dans les années 70, venant de Turquie, eh bien, ce style fait un beau retour dans les charts depuis 5-6 ans à peu près. Keith Sebastian est un duo, elle et les Turcs, lui français. Ils se sont rencontrés à Londres et déjà deux albums. Le troisième est prévu à la fin de ce mois. Il s'appellera New International. Et à l'instant, un extrait dans À bâton rompu s'appelle Bulle, Bulle, Bulle.
Orléans et Radio Campus Tour, tous les mardis de 19h à 20h.
Il va falloir que je m'y fasse à cette table. Il y a des boutons. Il y a plein de boutons. Allez, Steven. Oui, alors, je disais en début d'émission, là, j'ai vu sur ton papier un truc que j'ai entendu ou lu sur des pancartes là, lors des manifestations il y a 10 jours partout en France, Michel Barnier, la pute des fachos. Je sais pas si je dois valider cet argumentaire. Tu le reprends ou pas, toi?
Non, mais en fait, ça c'était dans ma version de rodage et tout. Non. Cette année, j'ai dit discours bien construit. En plus, là, on est écouté depuis la Turquie, donc sérieux.
Hein. Ouais, voilà, c'est ça.
Donc sérieux, ok? Ah,
bon.
Bon, allez, c'est parti. Vous avez vu, ça bouge au pays de la déclaration des droits de l'homme. Ouais. Alors, ce qui est bien avec les déclarations, en fait, c'est qu'elles sont pas obligées de coller à la réalité. Hein. Petit exemple, hein, tu peux dire que t'es content de la reprise, alors que dans les faits, bah, t'étais bien en vacances. Autre exemple, hein, bah, Hassan, toi, par exemple, tu peux déclarer que t'es français. Dans les faits, je te conseille de sortir avec ta carte d'identité. Hein. Ou encore, on peut déclarer que Macron s'en branle de la démocratie et des résultats des élections. Ouais. Alors en fait, ça colle pas toujours, pas tout le temps. Bon allez, on enchaîne. Première news. L'action militante d'Orléans peut aussi rayonner dans d'autres villes. Ça c'est cool. Hein, on est d'accord. Bon bref, pas de réaction. Pendant les vacances, moi j'en ai profité pour aller rencontrer un collectif nantais. J'ai notamment rencontré Maxime, qui est militant à la CIMAD et membre du collectif Coordination opposée à l'enfermement et à la répression des personnes étrangères.
On l'écoute,
tout simplement.
Hein,
Colère 44.
Oui. Ah ouais. On l'écoute pas encore. Mais,
non, pas encore.
Mais alors, c'est, ouais, Colère, c'est comme lui, je disais tout à l'heure, le collectif, hein, Colère à Orléans.
Exactement, précisément, Hassan, c'est ça. Tu suis mes chroniques, c'est ça qui est bien. Là, en s'inspirant de l'action militante du collectif contre les expulsions et la rétention, donc Colère 45, les Nantais ont décidé de faire de même en allant jusqu'à reprendre le nom.
Colère, en fait, c'est une coordination que nous avons décidé de créer avec donc, plusieurs entités, à savoir des associations, des syndicats, des partis politiques et d'autres collectifs pour essayer voilà, de fusionner nos énergies pour s'opposer à ce projet. Donc c'était en fin d'année 2023 que nous avons commencé à nous réunir à une petite dizaine d'entités. Et aujourd'hui, on est à plus de 20, plus de 20 membres de Colère. Et donc il a fallu trouver un nom. Il y avait déjà un collectif qui existait à Nantes, un collectif anti-CRA qui existait donc depuis plusieurs années. Et donc nous sommes constitués donc à côté en soutien et ce sont des alliés et on a décidé voilà, on a vu que Colère existait à Orléans et donc nous avons piqué sauvagement le nom pour faire voilà coordination opposée à l'enfermement et à la répression des personnes étrangères en y accolant 44 bien sûr pour ne pas créer de confusion.
Ouais, alors un peu de contexte quand même, donc le 8 octobre 2023 hein, l'abject Darmanul s'est déplacé à Nantes pour discuter d'un apparent climat d'insécurité à Nantes. Il en a profité pour annoncer la création d'un centre de rétention administrative de 140 places sur le territoire nantais. Et pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet.
Apparemment, c'est un projet qui est quand même pas récent, parce que du coup, avant, il y avait un petit centre de rétention qui était au sein du commissariat de police Valdec-Rousseau à Nantes, qui avait été fermé suite à un incendie. Et donc depuis, il n'y avait plus du tout de lieu de rétention à Nantes, et donc les personnes étaient mises en rétention à Rennes, au centre de rétention donc de Saint-Jacques-de-la-Lande. Et il y avait apparemment un projet de création de centre de rétention à Nantes depuis pas mal d'années, qui était dans les cartons, plus ou moins ouvert suite aux préfets successifs. Après voilà, donc les préfets avaient été beaucoup occupés par l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, donc je pense que le centre de rétention n'était plus vraiment une priorité. Et donc là, c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène suite aux déclarations de Gérald Darmanin qui souhaitait doubler les places de centres de rétention sur le territoire, et est revenu le projet nantais. Voilà, notamment qui a été mis en lumière suite à des questions d'insécurité sur la ville et des demandes de renforts policiers. Donc le ministre en a profité pour rajouter le centre de rétention, donc en faisant une nouvelle fois l'amalgame entre insécurité et immigration, donc ce qu'on dénonce bien évidemment.
Ouais, bah oui, parce qu'avec la droite, hein, tout est affaire de subtilité. Hein. Moi, j'en connais aussi une autre subtilité qui explique jamais.
Mais c'est délicat de faire comprendre aux gens que par principe ce n'est pas une prison, dans les faits c'en est devenu une et qu'on enfermait des gens voilà, de manière administrative, que le juge intervenait de plus en plus tard parce que bon, il se trouve en plus que c'était au même moment que la loi Darmanin était promulguée, donc fin janvier, avec un durcissement donc de la politique d'expulsion et de rétention. Donc bon, c'était voilà, on était vraiment dans le vif du sujet. Et certaines personnes avaient entendu parler de rétention sans vraiment savoir ce qu'il en était. Donc ça nous a permis d'expliciter un petit peu les choses. Ça reste une politique de l'affichage, une politique du chiffre. C'est l'idée donc de doubler les places en rétention, que en mettant plus de gens en rétention, ce sera plus efficace. Après, chaque année, les rapports, notamment des associations qui interviennent dans les centres de rétention, démontrent de l'inutilité, notamment de l'allongement de la durée de la rétention, parce que les personnes qui sont effectivement reconduites à la frontière le sont généralement dans les premiers jours de la rétention. Que beaucoup de personnes y sont enfermées en dehors de toute règle légale parce qu'elles sont rapidement libérées, notamment, et comme vous le disiez, par le juge des libertés et de la détention. Donc du coup, qu'est-ce que fait le gouvernement et que font les députés? C'est voter des projets de loi qui reculent l'intervention donc de ces juges-là, qui sont censés garantir la légalité, en tout cas de l'interpellation ou du placement en rétention. On va faire reculer le plus possible leur intervention dans l'espoir que les personnes soient expulsées avant qu'ils n'interviennent. On va également restreindre leur possibilité donc d'action parce que en fonction donc de certaines infractions ne seront plus suffisantes pour permettre la libération des personnes retenues. Effectivement, donc ça coûte très 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 cher la politique de rétention, qui doit notamment être censée être le dernier recours pour permettre l'expulsion de quelqu'un. Sauf qu'aujourd'hui, enfin en tout cas depuis de nombreuses années, c'est la technique ancestrale, ou en tout cas la technique numéro une pour procéder à l'expulsion de quelqu'un, quand bien même elle ne serait pas expulsée, c'est de la mettre en rétention, alors que normalement c'est le dernier recours et qu'il y a d'autres possibilités donc d'avoir quelqu'un entre guillemets sous surveillance le temps d'organiser son retour à l'étranger.
Et ça va pas aller en s'arrangeant, hein, parce que je vous rappelle que depuis le 15 juillet, l'ensemble des dispositions de la loi immigration dont on a déjà parlé ici sont entrées en vigueur.
Ouais, mais on peut en reparler un petit peu là. Est-ce que tu peux nous les résumer ou pas?
Grosso modo, c'est la merde, hein, je vous le dis tout de suite. Désormais, le juge intervient 4 jours après le placement en rétention contre 48 heures avant. Tout est réglementé pour que les personnes sortent le moins possible du centre de rétention. Par exemple, maintenant, le principe, c'est que ce sont les juges qui se déplacent au centre de rétention et non les personnes retenues qui se déplacent au tribunal. Donc effectivement, c'est une nouvelle démonstration de la politique absurde du chiffre, avec au final très peu de résultats. Hein. Je vous rappelle que le rapport de la Cour des comptes qui était sorti en janvier 2024 a révélé que 70% des personnes entrant en centre de rétention en ressortaient à la fin de la période de rétention. Du chiffre, rien du chiffre, les résultats, on s'en branle. Ça, c'est du Macron, c'est du Darmanin dans le texte. Je finirai par une petite info quand même, un petit message positif que les Nantais nous adressent à nous, Orléanais et Orléanaises.
Déjà merci de vous être constitué parce que bon, ça nous a permis de voir que une lutte était possible, quand bien même le centre est ouvert, mais il faut pas baisser les bras, bien au contraire. Merci aussi d'avoir eu ce chouette nom de colère et on s'excuse de vous l'avoir piqué, mais bon, on espère en tout cas que ça aura fait écho à la lutte orléanaise. Tous ces collectifs soient créés permet aussi donc de se dire qu'on n'est pas seul. Donc je voulais dire aux Orléanaises et aux Orléanais qui ne sont pas seuls que nous aussi nous avons cette lutte à mener, en espérant qu'on va y arriver et que le centre de Nantes ne verra jamais le jour. Et après, c'est une fois que le centre est malheureusement ouvert, c'est d'être là comme témoin, en tout cas, de ne rien lâcher, de ne rien laisser passer pour dénoncer tout ce qui pourrait s'y passer à l'intérieur comme à l'extérieur, et de continuer à dénoncer la politique d'enfermement, quand bien même le centre est ouvert et fonctionnel.
Et j'ai une petite info cadeau, je ne sais pas si vous la voulez.
Hein, ouais. Oui.
Oui. Alors, il est prévu la construction d'un stand de tir au sein du centre de rétention à Nantes.
Tu déconnes.
Ouais, je sais pas. J'imagine que la police aime la balle aux prisonniers. Je sais pas.
Oh non, oui. Ah, super.
Donc voilà, c'était la petite info. Moi, je vous le dis, hein, tout ça, ça sent la merde hein, pour les Noirs et les Arabes. Après, ça pourrait être pire. Moi, je me dis, ça pourrait être pire. On pourrait avoir un nouveau Premier ministre hein, qui est chaud pour remettre en place un ministère de l'immigration. Putain, c'est une vraie info, ce truc-là. Alors oui, effectivement, hein, Michel Barnier, aka le vieux raciste LGBTphobe, qui a plus sa place dans un hospice que dans un gouvernement, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, qui s'en bat tellement les couilles. Tu sais, on dirait Disney avec tous ses reboots, uniquement motivés par les thunes. Enfin, les thunes des pauvres, je veux dire, hein, parce que, Bruno Le Maire, vous vous souvenez de Bruno Le Maire?
C'est bizarre.
Le ministre de l'économie et des livres de cul. Il a annoncé qu'il fallait encore couper dans notre budget. Bruno, c'est ce mec qui débarque chez toi, te casse la gueule, vide ton compte en banque, il fait le tour de chez toi, il revient, il te recasse la gueule, et après il repart avec ta voiture. Bon, enfin bref. Mais restons sur Barnier encore un peu... Surtout qu'il y avait une mobilisation nationale le 7 septembre devant la préfecture du Loiret contre sa nomination. J'en ai profité pour demander aux étudiants ce qu'ils en pensaient, notamment à Bastien, un étudiant élu de l'UNEF à l'Université d'Orléans. Alors, on en pense quoi de la nomination ?
Il se retrouve avec, comme nouveau Premier ministre, Michel Barnier, député déjà en 1981, 73 ans, presque sénile. C'est un message assez catastrophique qu'on leur envoie.
Ouais, je crois qu'ils sont pas fans de l'idée. En même temps, les jeunes, ils se sont mobilisés pour la gauche et ils se retrouvent au final avec un ministre de droite soutenu par l'extrême droite. C'est comme t'arrives au resto, tu commandes un bon plat et le serveur, il te casse la gueule et il se barre avec ton vélo. Je crois que j'ai un problème avec les comparaisons, ouais. Moi.
Oui, oui, et puis surtout le cassage de gueule, je crois que. C'est... Ouais, t'as vécu un truc pendant les vacances ou...
En fait, c'est surtout que je me dis que j'ai pas de vélo. Enfin bref, je lui ai demandé ce qu'il fallait s'attendre avec un tel gars à la tête du gouvernement.
On écoute.
On sait qu'on n'aura aucune condition qui va s'améliorer, que ça soit pour l'investissement dans les universités françaises, que ça soit pour les professeurs, les enseignants, le nombre d'élèves par classe, et que enfin notre situation va vraiment pas s'améliorer. Va falloir continuer à se battre en tout temps. Oui, on n'aura vraiment rien de nouveau. On n'a pas vraiment. Il est venu en tant que Premier ministre sans programme. Or, le discours qu'il a pu faire à son arrivée pour remplacer M. Attal n'a ouvert aucun présage positif pour nous. On n'a pas de quoi sauter de joie. On pense, et on est convaincu que ça va être la même politique d'austérité, la même politique de coupe budgétaire. On a déjà moins 500 millions pour les universités françaises qui risquent d'arriver avec cette alliance macroniste-républicain-Le Pen. Et on ne peut que craindre pour notre condition, en fin de compte. On sait que ça va être de plus en plus difficile d'étudier. On va de plus en plus essayer d'orienter les gens et faire un tri social dès le plus jeune âge en les envoyant vers des formations professionnelles qui sont délaissées ou... En les envoyant dans le marché du travail. Donc oui, va falloir s'investir pour la cause étudiante en tout temps.
Et la pluie ne vous a même pas arrêté. Hein.
Non, ouais, t'as vu ça. On milite même de pluie, nous. On n'a pas le temps.
Bah j'ai vu ça. Je vois ça.
Non mais voilà, ça c'est du Macron, hein, ou comment prendre les gens pour des cons. Pour tout vous dire, même les vieux que je respecte, je tiens à le dire ici, je respecte les vieux, enfin certains vieux, bah, par exemple Hélène, retraitée, qui explique bien à quel point elle en a marre de Macron.
Et pour demander la destitution de Macron, puisque de toute façon, c'est lui qui est à l'origine de tout ce chaos. Hein. Donc il a semé le chaos et il continue, il continue dans le chaos. Donc il n'est plus du tout adapté à la fonction de président. Voilà.
Bah voilà. Bah, dis-lui toi, Hélène, moi j'en ai marre. Ouais. Je ne lui parle plus, moi, Emmanuel, je ne lui parle plus.
Ah, c'est parce que tu lui parlais avant ?
Bah oui.
Ah, oui,
bon. Mais bien sûr. C'est pas bien ce que tu fais, il me fait. Ta gueule.
Ouais, moi, en tout cas, moi, les manifs.
Et donc, et la suite alors ?
Ouais, j'y suis pas encore. Attends.
Ah bon ?
Attends.
Bon, vas-y.
Moi, les manifs, ça m'avait manqué quand même. Hein. Être regroupés là, tous comme ça, contre le gouvernement pour crier Macron, démission. Toutes les personnes que j'ai interrogées là-bas parlaient d'un deux poids, deux mesures entre le traitement de la gauche et le traitement de la droite. Je vous laisse écouter.
Il y a deux poids, deux mesures, parce que c'est la gauche, donc automatiquement, on nomme pas un Premier ministre de gauche parce qu'il va être censuré. Par contre, on nomme un Premier ministre dont le groupe politique a fait 6% dans les élections. Et encore une fois, là, on ne parle pas de personne, on parle juste de résultats dans les urnes, c'est-à-dire qu'il y a eu un groupe politique qui a gagné ces élections, pas d'une énorme majorité, mais néanmoins qui les a gagnées. Et donc, avant de dire il se serait fait censurer, machin, pourquoi on n'a pas essayé ?
Pourquoi on n'a pas essayé ? Et la suite alors ?
La suite, c'est la question que je me pose. Hein. À la manif, ils se sont donné rendez-vous le 1er octobre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Hein. Bon, c'était l'appel qui a été lancé. Hein. En attendant, Macron continue de faire du Macron. La démocratie, tout le monde s'en branle. On va avoir la même politique avec un peu plus de racisme, comme si aucune élection n'avait eu lieu. À la manif, il y a quand même une femme qui a pris la parole pour dire que c'est maintenant qu'il faut agir. Elle a sûrement raison. Bon, ouais. Voilà.
Mais vraiment, et en plus, il pleuvait vraiment, parce qu'on l'entend bien là. Ouais.
Parce que, attendre le 1er octobre, en attendant, Macron et l'extrême droite, ils tissent leur récit, ils se préparent déjà à mettre en place une nouvelle politique d'austérité, à surprotéger les patrons, à exploiter les plus démunis, et le tout sous couverture d'un discours sécuritaire et raciste. Donc voilà. Bon, moi, je trouve qu'elle est pas mal cette reprise. Hein.
Elle est pas mal, ouais. En tout cas, merci à toi pour. ces deux reportages.
Ouais. Juste pour préciser un truc, ils n'ont pas fait totalement du plagiat à Nantes, hein, puisque c'est le collectif Colère, certes, mais comme tu l'indiquais dans notre papier de la Redac Pop, Steven, oui. La Colère d'Orléans, c'est le collectif contre les expulsions et la rétention, alors que la Colère de Nantes, c'est la coordination opposée à l'enfermement et à la répression des personnes étrangères.
Ils ont changé le nom, voilà. Mais ça vous l'entendrez, Maxime, il en parle dans l'interview qu'on vient de publier, du coup.
Ouais. Bah, en fait, c'est l'article qui était depuis plusieurs semaines maintenant dans la Redac Pop, mais on a ajouté l'interview complète de Maxime fichier son. Voilà.
Sur la page de la Redac Pop, qui est le média participatif de Radio Campus. D'ailleurs, Thomas, si tu veux en dire un mot, tu gères cette page. T'as besoin de monde.
Oui, toujours. Des contributeurs, des journalistes citoyens que je me propose d'accompagner avec ma propre expérience de journaliste en presse quotidienne régionale pendant plusieurs années, notamment chez nos amis de la République du Centre, où j'ai travaillé pendant très longtemps là-bas, pendant plus de 5 ans quand même. L'idée, c'est que tout le monde peut faire du journalisme à son échelle, à sa hauteur, peut parler de ce qui les touche, de ce qui l'entoure.
T'imagines Pascal Proulx nous écouter. Ouais, je peux faire du journalisme. Oui,
mais non. En respectant la ligne éditoriale de la Redac Pop aussi, notamment. Si vous venez effectivement pour faire un article pour dénoncer le grand remplacement ou pour déverser votre fiel contre le lobby LGBT, QIA+, woke et compagnie, c'est sûr que là, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pas la ligne éditoriale de la Redac Pop.
Et en plus, on a dit faire du journalisme, pas de la merde.
Donc voilà. Donc moi, mon but, c'est ça, c'est de faire en sorte que chacun et chacune puisse contribuer à la Redac Pop en suivant quelques règles de déontologie journalistique. Donc je suis là pour vous les enseigner.
Amis auditrices, amis auditeurs, va déjà voir ce qui se passe sur cette page et nous avons besoin de toi si tu as des idées.
Ouais.
Surtout,
venez.
Contacte Thomas.
Ouais, ça marche. Plus, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Nous allons parler maintenant de ce week-end, des week-ends d'Ardard, le week-end d'Ardard, ou plutôt les week-ends d'Ardard, une opération lancée par la région Centre-Val-de-Loire pour permettre aux jeunes de la région entre 15 et 25 ans de bénéficier d'expériences artistiques dans des lieux culturels du territoire. 11 lieux qui vont ouvrir les portes pour des rencontres, des ateliers de formation, au métier de la culture notamment, des spectacles et des concerts également. 3 week-ends sont annoncés donc du 27 au 29 septembre prochain, du 4 au 6 octobre prochain et du 11 au 13 octobre. L'année dernière, il n'y avait eu qu'une édition qui a connu le succès et des structures culturelles avaient demandé qu'il y en ait un peu plus cette année. Que va-t-il s'y passer ? Delphine Benassi est vice-présidente de la région Centre, déléguée à la culture et à la coopération internationale.
Sur ces 3 week-ends, donc on a 11 lieux de spectacles vivants qui sont engagés sur l'ensemble du territoire régional, qui vont ouvrir leurs portes aux jeunes avec des programmes, des programmations, donc des spectacles gratuits dédiés aux jeunes, mais aussi la possibilité de faire des ateliers de pratique artistique avec des artistes, de visiter le théâtre, de rencontrer des gens qui y travaillent. Et puis aussi, et ça nous tient vraiment à cœur, pour que ça soit pas simplement le fait de venir au théâtre, mais la possibilité de s'impliquer dans le lieu tout au long de l'année, d'une façon ou d'une autre, avec un groupe de jeunes, d'aller voir des spectacles tout au long de l'année et puis d'en échanger ensemble, de discuter. Ça va être aussi participer à la construction d'une soirée, carte blanche, donc travailler sur la programmation aussi avec un groupe de jeunes et au contact évidemment des personnels du lieu et d'artistes. Voilà, c'est vraiment susciter l'envie, l'intérêt, peut-être des vocations pour les métiers du spectacle vivant.
La région Centre octroie une cagnotte annuelle de 20 euros pour financer les sorties des jeunes de 15 à 25 ans dans de nombreux lieux culturels de la région. Mais pour cette édition du week-end d'Ardard, la région lance une cagnotte spectacle vivant. Delphine Benassi.
Il y a une cagnotte culture annuelle de 20 euros qui est octroyée à tous les jeunes de 15 à 25 ans. Et on la complète tout au long de l'année par des cagnottes thématiques. Et donc là, suite au week-end d'Ardard, on va lancer une cagnotte spectacle vivant que les jeunes pourront utilisés spécialement en fait pour prendre des places de théâtre, de concert, un abonnement tout au long de, enfin, et profiter voilà de ce lancement de saison pour peut-être s'abonner au lieu le plus proche de chez eux.
Dans les lieux les plus proches de chez eux, qu'est-ce qui va se passer autour d'Orléans? Notamment, il y avait des représentants et représentantes de structures, de lieux culturels qui étaient présents. Alors, le théâtre de la Tête Noire était représenté par Marjolaine Baroni. Elle pilote un groupe qui s'appelle Groupe Pollen, où il y a des jeunes de 15 à 25 ans qui se rencontrent souvent et qui parlent, qui vont en spectacle, non seulement du théâtre, mais aussi, voilà, plein d'autres choses, notamment le cinéma, je crois. Oui, c'est ça, le cinéma également. Le 4 octobre, au théâtre de la Tête Noire à Saran, il y aura un apéro du groupe Pollen avec la présentation du projet, inscription, suivi d'un atelier sérigraphie du textile et tote bag à l'effigie du groupe Pollen, Marjolaine Baroni. Je voudrais qu'on en parle, c'est quoi ?
En fait, c'est un groupe qui est né l'année dernière grâce à la proposition de la région Centre. Où en fait, on est parti d'un constat que souvent les jeunes nous disaient bah, « Moi, j'aime bien venir au théâtre, mais je venais avec mes parents ou avec mes profs, mais maintenant, tout seul, je ne sais pas quoi aller voir, je ne sais pas dans quel lieu aller, je ne sais pas quoi aller voir, et puis je n'ai pas forcément envie d'y aller tout seul. » Donc, on est parti de ce constat-là, avec pas mal de jeunes aussi, après le Covid, assez isolés. Et là, c'était l'envie, en fait, de se donner des rendez-vous pour aller au théâtre ensemble. Parce que aller voir un spectacle, c'est pas que un spectacle, c'est une soirée, c'est une sortie, c'est être assis à côté de d'autres personnes, c'est pouvoir en parler après le spectacle, et avant aussi, sur les attentes. Et donc, c'est des rendez-vous qu'on se donne toute l'année pour aller voir des spectacles ensemble, aussi bien au théâtre de la Tête Noire que dans les autres structures culturelles de l'agglomération orléanaise. Parce qu'on va aussi aller au CDN, à l'Astro, à la scène nationale, au CCNO. Voilà. Et puis on fait aussi des soirées pizza blabla, où en fait on mange des pizzas, évidemment, mais aussi on débat des spectacles, on en discute, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. Voilà.
Ah, top. Alors, il y a parmi dans votre groupe, il y a autant d'étudiants que de jeunes qui ne sont pas étudiants ou apprentis ou...
Alors oui, c'est un groupe qui est ouvert vraiment aux 15-25 ans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des étudiants qui ont fait des études de lettres, par exemple, mais comme il peut y avoir des jeunes qui ont arrêté les études assez rapidement, qui ne vont jamais au théâtre, d'autres y sont allés quand ils étaient plus jeunes. Enfin, voilà, ça mixe vraiment, vraiment c'est plusieurs personnalités, quoi. Et en fait, on donne rendez-vous aux jeunes donc le 4 octobre à 18h pour un lancement, enfin pour une présentation du projet du groupe Pollen au théâtre de la Tête Noire, avec un apéro, des ateliers sérigraphie, et puis voilà, on se rencontre, surtout c'est le temps de la rencontre. Et à 20h30, tout le monde est invité, si on a 15-25 ans et si on réserve, au spectacle Partout le
Partout. Voilà. Inès est une jeune membre de ce groupe Pollen. Elle était présente hier. Je lui ai demandé pourquoi elle avait intégré ce groupe Pollen. Écoutez.
Moi, je suis suivie avec la mission locale. Et c'est eux qui ont relayé l'information de l'ouverture du groupe Pollen l'année dernière. Du coup, je me suis inscrite pour faire la soirée de lancement. J'y suis allée. Et c'est là où on a expliqué tout ce que Marjolaine vient de vous expliquer. Et voilà, c'est un projet qui me paraissait prometteur, puisque le théâtre, j'en ai déjà fait, je m'y connais un peu. Par contre, je suis plus au lycée, donc j'ai plus un cadre où j'y vais qui est un cadre scolaire, et en plus, j'ai pas vraiment d'amis qui sont intéressés pour venir au théâtre avec moi. Et aussi pour débattre du coup des pièces. Du coup, je trouvais ça vraiment très intéressant de pouvoir me remettre dans le théâtre, et en plus de pouvoir vraiment avoir des débats avec d'autres personnes.
Vous débattez de quoi ? De vous parler des pièces, vous parlez de l'artistique, du politique même, du social ?
En vrai, ça va toucher un peu tout. Le thème principal, ça va être la pièce qu'on vient de voir. Mais c'est vrai que ça dépend après de la pièce, le sujet du débat touche un peu tous les aspects, donc l'aspect artistique, on va parler des lumières, de la sonorité, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en théâtre et qui peuvent faire des analyses plus poussées mais artistiques, mais selon la pièce, si c'est un sujet qui est politique, politique sans vraiment que ce soit un débat politisé réellement, mais c'est vrai que du coup, ça va traiter du thème que la pièce du moment à toucher.
Si vous êtes intéressé vous joindre au groupe, pardon, groupe Pollen, vous allez sur le site du Théâtre de la Tête Noire à Saran, ou alors sur le site IEPS, évidemment. Autre lieu, le 5 octobre, des ateliers, des rencontres, de concerts au 108 à Orléans, piloté par l'Astrolabe et le Polysonic. Vous savez, la salle d'enregistrement, notamment de musique et d'apprentissage des métiers de la musique, en tout cas. Benjamin Alcaniz était le directeur, était là hier également, et je lui ai demandé de nous expliquer ce qu'il ferait exactement au 108 le 5 octobre prochain.
Nous, en effet, on est plus sur la fabrique de la musique et sur le développement des projets artistiques des jeunes. Donc là, l'idée, c'est de créer de la rencontre qu'on fait avec des professionnels de la musique, que ce soit des journalistes, des coachs scéniques, des stylistes, des gens, des directeurs artistiques aussi, pour essayer de faire comprendre un peu dans quoi les jeunes peuvent mettre les pieds s'ils veulent se professionnaliser dans le milieu de la musique, et le fait que ce soit pas si facile que ça. Et puis après, on a aussi tout un tas d'ateliers, de pratiques, où là, l'idée, c'est un peu de sensibiliser les gens sur la pratique de nouveaux instruments ou d'anciens instruments un peu perdus, parce que maintenant, les ordinateurs, finalement, on fait en sorte de qu'on sache plus trop, en fait, ce qu'est un instrument de musique, un synthé modulaire ou quoi que ce soit. Donc là, l'idée, une boîte à rythme, quoi, voilà. Dire qu'en fait, la musique électronique, même avant, il y avait des instruments de musique électronique, et on trouve ça assez intéressant, en tout cas, d'accentuer notre boulot là-dessus. Et puis, plein d'autres choses, quoi. Aussi, des rencontres artistiques où là, on a convié certains jeunes qui ont des projets à venir à les faire écouter, et puis avoir des échanges avec, leur père, avec d'autres musiciens, se dire, ah, ça c'est bien, ah, t'as fait ça, avant tu faisais pas ça, ah, mais comment t'as fait pour trouver ça, c'est vraiment bien, t'as monté d'un niveau. Enfin voilà, avoir ce type d'échange qui permettent de créer un peu de l'interaction entre les jeunes et entre ces créateurs de musique qui sont souvent assez isolés dans leur acte de création, parce que maintenant les outils actuels le permettent et sont moins contraignants. Donc souvent, là où il fallait un groupe être quatre et se prendre la tête à se réunir avant, maintenant on est tout seul avec son ordi et on peut faire de la très bonne musique, sauf que on a plus ces échanges humains et ces retours sur expérience, quelle émotion je crée chez l'autre, voilà, quel ressenti, voilà, on a plus ces échanges qui sont quand même primordiaux dans la création musicale, c'est-à-dire se dire comment va percevoir l'autre ce que j'ai voulu passer comme émotion ou comme direction artistique. Donc voilà, il y a, pour nous, la rencontre nous paraît fondamentale actuellement dans la scène de créateurs de musique jeunes, que ce soit dans le rap, l'électro, mais aussi dans le rock et plein d'autres choses. On n'est pas focalisé sur telle ou telle esthétique, quoi.
Et vous organisez ça le 5 octobre, hein.
Ouais, le samedi 5 octobre. Alors tout ce qui est la partie atelier rencontre sera plus dans l'après-midi, et après ça se terminera par un open mic. On voulait appeler ça un apéro open mic, vers 18-19 heures, et puis après on enchaîne sur des concerts où là on est plus sur un temps un peu plus festif et convivial de partage de musique.
Allez voir ça si vous le pouvez. La scène de rap orléanaise est vraiment très très riche. Ça se passe donc le 5 octobre, toute l'après-midi, des ateliers de pratique musicale. Benjamin vous en a parlé, entre 14 et 18 heures. À 15 heures, il y a des rencontres autour du rap avec une invitation dont j'avais envie de vous parler. Un artiste rap local qui a démarré un peu sur Radio Campus. Il s'appelle Aurélien Chapuis. Il est devenu journaliste, podcasteur, animateur radio, il est DJ. Il était sur Combini. Il était sur No Fun. Il est maintenant sur OKLM Radio, au calme, on dit, les jeunes.
OKLM, ouais.
OKLM Radio. Et Aurélien viendra.
Voilà. C'est les jeunes des vieux, en fait.
C'est le jeune des vieux. Et Aurélien dit, Captain Nemo viendra proposer une écoute publique d'un projet qui s'appelle Parti Mort, et il répondra à vos questions. Peut-être que ça vous intéresse dans le studio, hein, pour savoir comment on fait, connaître son œuvre une fois qu'on l'a faite sur son ordinateur dans sa chambre. Écoutez Benjamin Alcaniz.
L'idée, ouais, c'est que lui, il intervienne surtout. Alors, il pourrait intervenir sur une multitude de thématiques finalement, parce que comme tu dis, il a été musicien, il a été journaliste. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un peu touché à tout dans le milieu de la musique. Là, on va se focaliser plutôt sur un peu comment les porteurs de projets vont pouvoir adopter une posture par rapport aux médias. C'est-à-dire quelle posture vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont raconter aux médias, enfin voilà, quel est le storytelling autour de leur projet artistique, et est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il faut être soi-même, est-ce qu'il faut s'inventer un personnage, enfin voilà, en gros là, l'idée c'est plutôt de se dire, bon bah, et analyser peut-être des exemples, et puis expliquer aux jeunes que des fois on perd beaucoup de temps sur certaines choses, des fois on va trop vite sur d'autres, et voilà, c'est plutôt penser un petit peu sa présence sur les réseaux, les médias, voilà. Et qu'est-ce qui peut après être intéressant pour un média, voilà. Quel artiste on va plus valoriser, parce que c'est plus facile de valoriser ce type d'artiste qu'à un univers, un imaginaire ou un vrai message, ou voilà. Donc il sera question un peu de ce rapport-là aux médias et au fait de faire parler de soi en fait sur les médias et les réseaux de manière générale.
Les week-ends d'Ardar, 3 week-ends, allez voir ça sur le site de YEPS, c'est la plateforme. Il faut d'ailleurs s'inscrire pour y aller. Tous les lieux culturels ouverts sur tout le territoire de la région. Une très belle idée. Un pari, dit François Bonneau, président de la région Centre-Val-de-Loire.
La volonté d'Ardar, c'est de faire en sorte que des jeunes, notamment, qui ont du mal à imaginer que leur place, elle est à un concert, elle est à une pièce de théâtre, qu'elle est, etc., parce qu'ils n'ont pas forcément d'avoir tous les codes pour aller à la rencontre, pour partager ça avec les autres. Le pari, c'est de faire en sorte que, parce qu'ils vont être accompagnés, parce qu'ils vont pas voir un spectacle de manière passive, mais qu'ils vont être dans les coulisses, à discuter avec les techniciens, à discuter avec les porteurs, avec les acteurs, avec les musiciens, ils vont rentrer dans la famille, de l'immense famille de celles et de ceux qui ont plaisir à la culture. Donc c'est casser le plafond de verre qui, aujourd'hui, contraint un certain nombre de jeunes à rester à l'écart de ça. Et pour ça, la région, elle se mobilise. Elle mobilise beaucoup de structures qui vont rentrer dans ces 3 week-ends de Dardar. Elle aide à la mobilité gratuite sur les week-ends. Elle aide aux entrées avec YEPS, etc. pour vraiment qu'aucun des jeunes vivant dans cette région, qu'il soit lycéen, demandeur d'emploi, la mission locale, étudiant, jeune travailleur, aucun de ces jeunes puisse se dire finalement j'ai pas ma place là-dedans. Tous ont leur place et on a une manière très accompagnée avec des structures qui ont vraiment la volonté d'être accueillantes, la possibilité de leur donner le plaisir de ces moments. C'est ça Dardar, c'est la culture pour tous dans un climat de convivialité, de bienvenue qui sera vraiment totalement évident.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
C'est ici. Vous voyez comment je vais tout doucement. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission pour ce mardi.
Bah oui, on en approche. Oui.
Mardi prochain, le retour ici dans les studios d'un ancien chroniqueur avec qui j'avais envie de parler de la situation politique actuelle. Il s'appelle Mathieu Langlois. Pour les auditeurs anciens de la radio, vous le connaissez. Plutôt de droite. Non, on peut dire ça, non, du centre droit. Et j'avais envie de connaître son point de vue sur ce qui se passe actuellement. Steven, tu viens ou pas, ou tu...
Rencontrer un mec de droite? Non, de centre droite. Oh, c'est la même chose, non?
Ouais.
Ouais, alors.
Mais ça serait bien de croiser un peu. Oui, vas-y,
oui,
dis-moi.
Oui, oui. Non,
mais
alors,
tu prends pas.
Bah, là, ça sera à bâton rompu, là.
Ouais,
là, on reviendra aux bases de l'émission.
Alors, ça va être compliqué. Non, je serai pas là. Il y a un événement au Cercil.
Oui. Il y a quoi? On t'a pas entendu parce que j'ai.
Vas-y, ouais, dis-le, ouais, ton expression, là.
Oui. Oui, j'ai dit ça a pu être à bâton rompu, ça va être à couteau tiré.
Ah bah non, mais non, mais non, on n'invite pas les gens pour. Mais non, en plus de ça, je pense que vous serez d'accord sur plein de choses parce que Mathieu est.
Qui ça, lui et moi?
Ouais, bah oui, parce que Mathieu est encore jeune. Il est quand on l'a connu ici, il était, il défendait énormément de projets.
C'est pas sectaire
pour les étudiants. Ouais, en tout cas, bah écoute, tu seras pas.
C'est des gens, de droite, il y en a des bien.
Ouais, paraît-il.
Et puis nous parlerons si l'on peut d'une des chiffres qui ont été publiés sur la pauvreté en France.
Bah, on reviendra là-dessus la semaine prochaine.
On va faire ça. On va se quitter ce soir avec de la musique qui vient du Kenya. En ce moment, il y a des émeutes de la jeunesse, des étudiants. C'est ça, démarré par les étudiants pour des questions de bourses non payées. Et puis d'autres jeunes ont intégré la chose. Alors, Wadagalidze, je crois qu'il s'appelle, c'est un duo. Ils ont fait une chanson qui a un peu marché 15 jours avant les émeutes. Et aujourd'hui, c'est devenu le chant de ralliement des jeunes partout au Kenya. Et ça arrive dans plein de pays là-bas. J'avais envie de vous faire écouter ça. Oui, c'est la révolution en dansant, c'est plutôt une putain de bonne idée, ça, non?
Oui.
Ça s'appelle Anguka Nayo. Wadagidze, ça s'appelle. Passez une belle soirée, une bonne semaine. On revient mardi prochain à 19h ici. Ukwanga bad unachukua madam so anguka nao itabaki mefilo na vibe anguka nao koko single for now mdagi mdagris ndeja patikani adi late night sa sita ndo tani wai nikupini location na nkofana na hii sukate call niko chomba ya G mina juwa utakuwa irizo ririz acha ni kushow kwanza form ya didon nisha shika mpua na tuende chini kwa chini akiwa adi na mini say tunasikiza Shin City tuna feel free take a video na post pale NGC, jina ni Cantel, kurapsi ni talenji Anguka nao, anguka nao, check it Anguka nao, twende down low now Stand up to your feet, mikono juu alafu click.